L'épisode ce matin, la mort d'un homme, la mort de Stan Lee.
Ouais, l'homme qui a inventé Hulk et Spider-Man, parti hier à 95 ans, et raconté sur les sites du Monde et de Libération dans un texte truculent, l'homme araignée. Jeu de mots et vérité, car me dit Libé, Stan Lee et ses créatures ont régné sur un demi-siècle au moins d'entertainment mondialisé. Et le New York Times, cadeau sur son site, m'offre un entretien vieux de 3 ans et retitré « Les derniers mots, messieurs, dames, la voix de Stan Lee ».
I loved Emile Zola. I loved Charles Dickens. Whenever I got an extra 50 cents, I'd buy one of those books.
Il aimait Émile Zola, il aimait Alexandre Dumas aussi, et donc au départ, la lecture précède la légende. Il y avait cet enfant qui lisait tout le temps et auquel sa mère avait offert à Noël une petite tablette qui lui permettait de faire tenir ses bouquins devant lui à table. Dans l'Amérique de la crise, Stanley Libert deviendrait porteur de sandwich dans un atelier de bande dessinée, scénariste du mythique Captain America, et prendrait son pseudonyme Stan Lee. Je réservais mon vrai nom, Stanley Martin Libert, pour le grand roman que je n'ai jamais écrit. Je lis cela dans Le Monde. Il inventerait à la place un univers de super-héros new-yorkais faillis et monstrueux, dit Le Monde, vivant leur pouvoir comme des malédictions. Et au milieu de ces super-héros, Stan Lee, souvent détesté, car c'est un homme dur, mais qui était, dit Libération, un personnage lui-même avec ses mythes. Il n'est pas une anecdote avec lui, en relation avec lui, qui ne connaisse une seule version. Et c'est la vérité de cet homme d'histoire, de ne pas en avoir de vérité. Il avait choisi pour devise le mot « Excelsior », qui signifie, me dit le Huffington Post, « plus haut » ou plus élevé. Il était aussi Stan Lee de l'Amérique et de ses dilemmes, dit Le Monde. Et en 1966, en pleine bataille pour les droits civiques, il inventait Black Panther, le premier super-héros noir. L'intolérance religieuse et le racisme font partie des poisons les plus mortels, écrivait Stan Lee en 1968. Et me rappelle le Washington Post, il y a 3 ans, il voulait encore réunifier la police et le mouvement Black Lives Matter. Les histoires que se racontait Stan Lee, qui sur Twitter était The Real Stan Lee, comme un autre homme qui se raconte des histoires, pas les mêmes, est The Real Donald Trump. Tiens, à propos de Trump, une femme raconte dans Le Monde ce que lui fit la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2017. Une cérémonie d'une uniformité désespérante, dominée par des blancs et par des hommes que j'avais si souvent vus au cours de mon existence. Et Michelle Obama, c'est elle, se forçait à sourire. Elle publie ses mémoires et des bonnes feuilles dans Le Monde. J'ai dit ceci à propos du successeur de son mari. Nous avions affaire à une petite brute, garde-t-on l'imparfait. Je trouve, dans Ouest France, au détour d'une interview, ce qu'inspire le président américain à un journaliste français sympathique d'un journal modéré. Il interroge ce journaliste David Yates, réalisateur des Animaux Fantastiques, déclinaison de l'univers de Harry Potter, et lui dit ceci. On a l'impression que Grindelwald, le méchant interprété par Johnny Depp, s'inspire d'Hitler ou de Trump. Réponse de Yates, c'est un peu réducteur, comparer Trump et Hitler me paraît déjà un peu extrême, certes.
Claude, on parle de camions polonais dans la Voie du Nord.
Qui décrit la Voie du Nord, ces camions immatriculés PL, ou bien en Bulgarie, qui chaque nuit stationnent sur l'aire de Falampin sur l'autoroute du Nord. Et quand le jour se lève, les chauffeurs scrutent leur téléphone portable pour une commande. Ils pratiquent le cabotage des livraisons à l'intérieur d'un pays étranger, le nôtre. Pratique dont ils repoussent les limites. Tel Ivan de Biélorussie, qui passe 5 semaines en France et travaille notamment pour Amazon. Et tous ces Ivan qui roulent des 20 heures par jour, se font payer 90 centimes du kilomètre et touchent une misère, sont la concurrence déloyale et l'esclavage moderne que dénoncent nos routiers et la Voie du Nord. Voilà une menace contiguë à cette colère du diesel que nos journaux n'en finissent pas de contempler. Et Le Figaro, Libération, L'Opinion, la presse nationale politique, donc, font ce matin presse une commune sur un mouvement qui les bouscule. Le Figaro fait avec des pincettes le portrait de Jacqueline Mourot, l'improbable madone, je cite, dont le coup de gueule a lancé un mouvement qui menace toutes les réformes à venir du quinquennat, assure L'Opinion. Et nous avons donc des journaux de raison confondus face à une colère qu'ils ne peuvent pas vraiment partager. Un mouvement spontané et récupéré à la fois, dit Libération, des gilets jaunes, mais il y voit Libération la preuve de l'humiliation. Et quelle tentation pour un journal de gauche que d'entendre des humiliés. Dans Le Parisien, Omar et Hassan sont humiliés mais n'en portent pas un gilet jaune et n'utilisent de grands mots. Ils sont père et fils de Melun et commerçants sur des marchés. Et Omar, le papa, doit aussi aller voir son médecin. Mais comment vivre et travailler si la Mercedes diesel de 1997 est désormais interdite, car les vieux diesels seront bannis dès juillet prochain du Grand Paris. Et juste à côté de Hassan et Omar, je vois Anne Hidalgo qui parle d'une victoire pour les citoyens. Sont-ils ces deux hommes aussi citoyens? La colère ce matin, le dispute à la tristesse et à la consolation dans nos journaux, quand ce 13 novembre, des rescapés, des endeuillés du Bataclan se racontent, et c'est parfois drôle et émouvant, tel cet homme dans Midi Libre, qui blessé, raconte qu'il a ensuite cessé de fumer. Daesh, dit-il, m'a peut-être sauvé du cancer. Nous sommes aussi cet humour.
C'est un surdoué qui se gâche dans la presse ce matin.
Pour finir, Ousmane Dembélé, tristesse, attaquant de Barcelone et de l'équipe de France, et souci de Didier Deschamps, car, dit le Parisien, dans son club, Dembélé est désinvolte, il arrive en retard aux entraînements, ou carrément ne vient pas et passe sa nuit sur sa console de jeu. Barcelone aurait demandé au solide Umtiti de veiller sur son compatriote. Triste jeunesse. L'équipe interroge Laurent Blanc, l'ancien patron du PSG, qui est déçu par ses anciens protégés, Rabiot et Verratti, qui ne progressent pas. Triste vieillesse. L'équipe encore raconte comment Franck Ribéry a agressé un consultant de Bein Sport après une défaite du Bayern. Triste football à nouveau. Il faut dire que la comparaison est rude avec les héros du grand large qui vous ont séduit, Nicolas Demorand. Je l'ai entendu. Mais à la une de l'équipe, quelle poignée de main entre le jeune blond François Gabart, deuxième, et le sexagénaire déplumé mais vainqueur de la route du Rhum, Francis Joyon. Frère de mère, dit l'équipe. Quels avant-bras, mes amis.
Oui, énorme. Merci Claude pour cette revue de presse.